Voilà, bonsoir à tous. Et bienvenue pour la dernière soirée d'éthique publique de l'année universitaire au Centre Sèvres. Dernière soirée qui constitue un chiffre rond puisque c'est la 70e d'une désormais longue série. Bienvenue à vous, à nos amis aussi qui suivent en différents lieux de France cette soirée en direct ou en retransmission. C'est la dernière soirée de l'année, je disais, et il est sans doute bon de nous souvenir du chemin que nous avons essayé de faire ensemble. Je dis ensemble parce qu'il y a quand même beaucoup de gens parmi vous qui sont extrêmement fidèles à cette proposition. Et ce chemin où nous avons essayé d'éclairer, de nourrir notre réflexion au long des mois. Alors, on peut se rappeler le mardi 6 octobre où nous avons débuté l'année universitaire en nous intéressant précisément au synode sur la famille qui venait tout juste de commencer, les enjeux d'une parole d'église avec Mgr Pascal Vincer, Mme Monique Beaujard et le père Étienne Grieux. Le mardi 3 novembre, l'actualité nous conduisait à tourner notre regard vers la COP21, conférence sur le climat « Va-t-on vraiment changer les choses ?» avec Jean Jouzel, Bernard Perret et Alain Grandjean. Le mardi 1er décembre, nous nous sommes intéressés aux enjeux migratoires, la crise migratoire, une question existentielle pour l'Europe, avec Pavel Fischer, Mathieu Tardis et Thomas Liebig. En janvier dernier, nous avons commencé l'année après des semaines fortes et douloureuses pour notre société française en nous posant la question « Comment va la France ?» avec Michel Hurvoy, Véronique Fayet et Joseph Maïla. Le 2 février, en pleine crise agricole, nos invités Patrice Moyon et Marcel Jolivet nous ont aidés à envisager l'avenir du monde agricole. Le mardi 1er mars, nous nous sommes arrêtés sur les enjeux que pose la gestation pour autrui, avec Madame Muriel Fabre-Magnan et le père Patrick Verspirène. Le mardi 5 avril, nous accueillions Pierre Manant, Ralem Bencher et Paul Valadier pour réfléchir sur les religions dans l'espace public, facteurs d'intégration ou de tension. Et enfin, le mois dernier, alors que le sujet arrivait sur le devant de la scène médiatique, nous avons essayé de nous faire une petite idée du projet d'accord de libre-échange transatlantique avec Mathias Feckel, Mathilde Dupré et Yannick Jadot. Voilà, grande diversité de thèmes, de sujets, donc, avec des intervenants qui ont toujours manifesté une généreuse disponibilité pour ces soirées, malgré un agenda bien chargé, et en espérant que les thèmes et les échanges que nous essayons d'avoir ici, dans le respect les uns des autres, ont pu nous aider, vous aider dans ce discernement de citoyens et de chrétiens. Les soirées d'éthique publique reprendront à la rentrée universitaire et d'ores et déjà, vous pouvez retenir la date du mardi 4 octobre. Nous réfléchirons autour des enjeux de l'éducation aujourd'hui, la question des valeurs, en partenariat notamment avec nos amis des Semaines sociales de France. Mais ce soir, pour terminer l'année et un peu en forme d'inclusion, nous allons revenir sur ce thème si important de la famille, avec lequel nous avons donc commencé l'année, quelques jours après le début du synode, puisque, comme vous le savez, le 8 avril dernier, le pape François a publié à Amoris Laetitia « La joie de l'amour », l'exhortation apostolique sur la famille qui rassemble les résultats des deux synodes sur la famille convoqués par le pape François en 2014 et 2015. L'actualité chargée des deux derniers mois a fait que finalement on en a assez peu parlé finalement de ce texte, au-delà des raccourcis parfois des médias, et il nous a donc semblé important avant l'été d'y revenir pour voir ce qu'il y a dedans et comment elle est reçue. Le texte, vous le savez, s'appuie sur les relations conclusives des deux synodes qui sont largement citées, ainsi que sur d'autres documents et enseignements des prédécesseurs du pape François et de nombreuses catéchèses qu'il a prononcées sur la famille. cette exhortation apostolique qui aborde notamment la question de l'accompagnement des couples et des familles et insiste sur les diverses situations familiales, elle frappe par son amplitude et par son articulation. Elle est divisée en 9 chapitres, plus de 300 paragraphes, et s'ouvre avec 7 paragraphes introductifs qui, en quelque sorte, eh bien, révèlent la conscience de la complexité du thème et de l'approfondissement qu'il requiert. Alors, que faut-il retenir de ce texte? Y a-t-il quelque chose de nouveau dans le discours de l'Église sur la famille? Quels chemins sont ouverts par cette exhortation apostolique, la joie de l'amour? Pour nous aider à nous faire une idée, et peut-être si ce n'est fait, nous donner envie de lire cette exhortation, voire même ensuite de la travailler en groupe, je suis heureux d'accueillir nos deux invités, Madame Pascale Vidal et le Père Alain Thomasset. Madame Pascale Vidal, vous êtes psychologue et psychanalyste. Vous avez été marquée notamment par la pensée de Françoise Dolto et de Denis Vasse et vous enseignez à la faculté de médecine de Montpellier où vous habitez. Mariée, mère de famille nombreuse, vous êtes également engagée dans la pastorale du diocèse de Montpellier. Vous suivez de près ces questions de famille et de sexualité depuis plusieurs années. Vous donnez d'ailleurs un enseignement ici, au Centre Sèvres, sur le discours de l'Église sur la sexualité et la vie affective, racines anthropologiques et ouverture pastorale. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru en 2012 chez Salvator intitulé « Les cathos et la sexualité ». Merci donc d'être venu jusqu'à nous. Vous nous partagerez comment vous avez accueilli, reçu, lu cette exhortation du pape François. Le père Alain Thomasset, qu'on ne présente pas dans cette maison, mais que je vais quand même présenter, jésuite, docteur en théologie, professeur de théologie morale ici donc au Centre Sèvres, où il est également directeur du troisième cycle de théologie. Le père Alain Thomasset participe à plusieurs groupes de travail sur ces questions de la famille. Il est également président de l'Association des théologiens pour l'étude de la morale, l'ATHEM, et il collabore à la revue Recherche de sciences religieuses. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, et je ne ferai que citer quelques-uns. Interpréter et agir, jalon pour une éthique chrétienne, aux éditions du CERF en 2011. La morale de Vatican II aux éditions Mediapôle en 2013 et les vertus sociales, justice, solidarité, compassion, hospitalité, espérance, paru l'an dernier chez Lesus. Merci Alain d'être avec nous ce soir pour nous présenter ce texte du pape et nous dire, comme théologien, comment tu le reçois, ce que tu y lis. Enfin, je signale qu'à la demande de la Conférence des évêques de France, tu coordonnes avec d'autres la prochaine édition commentée de l'exhortation avec des commentaires, réflexions, pistes pour travailler le document qui sera publié en septembre prochain, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur l'écran. Voilà, comme à l'habitude, nos invités vont s'exprimer pendant 20 minutes environ chacun, avant d'ouvrir le débat entre nous tous. Et sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole au père Alain Thomasset.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Avant d'aborder ce qu'il faut retenir du contenu de ce texte et ce qu'il apporte de nouveau dans le discours de l'Église sur la famille, je crois qu'il est bon de dire quelque chose sur l'originalité de ce texte dans sa forme et dans son élaboration. Comme vous le savez, cette exhortation post-synodale vient conclure un processus de consultation et de délibération inédit jusqu'alors dans l'Église. Le pape François a souhaité que les enjeux pastoraux et missionnaires de la vie familiale soient discutés lors de deux assemblées synodales en 2014 et 2015, elles-mêmes précédées d'un questionnaire envoyé à tous les diocèses, paroisses et mouvements. C'est donc un processus de plus de 2 ans qui a été mis en œuvre, ouvrant à de nombreux débats avec la participation d'un grand nombre de fidèles, de théologiens, de pasteurs. À l'issue de ces deux synodes, le pape exerce son propre discernement et publie son texte. Il faut noter d'abord qu'il reprend beaucoup des conclusions des rapports des deux synodes Il les cite longuement, comme aucune autre exhortation d'ailleurs ne l'avait fait auparavant, ce qui démontre une fois de plus son attachement à la synodalité de l'Église. Je le cite dans son discours à l'occasion du 50e anniversaire de l'institution du Synode des évêques. « Depuis le début de mon ministère en tant qu'évêque de Rome, dit-il, j'ai voulu valoriser le synode qui constitue l'un des héritages les plus précieux de la dernière assise conciliaire. Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. L'appui de ce texte, donc sur cette longue délibération ecclésiale et sur les textes votés à la majorité qualifiée, ouvre une nouvelle manière de faire, je crois, dans l'Église et renforce l'autorité de ce texte. Il faut ajouter à cela, toujours dans la forme, le ton très personnel du pape qui s'engage en n'hésitant pas à utiliser le « je » dans ce texte. Dans un dialogue, d'ailleurs, avec les familles, avec, non pas sous le mode de l'enseignant ou du docteur, mais on sent plutôt le pasteur plein de sagesse qui veut rejoindre les familles dans le concret de leur existence, avec émerveillement, compassion, mais aussi pour leur dire l'essentiel d'une bonne nouvelle adressée à toutes les familles. Il y a donc une première originalité de ce texte, dans la manière dont il a été conçu, porté par un discernement ecclésial sans précédent, et par le ton employé qui se veut non pas tant celui d'un enseignement magistral, mais dans la proximité bienveillante d'un père donnant des conseils à ses enfants pour les encourager, les soutenir, et les inviter avec enthousiasme à entrer dans la joie de l'amour et la beauté du mariage chrétien. Cela dit, j'ai insisté sur la forme et le ton, est-ce que cette exhortation ouvre de nouveaux chemins ? On a beaucoup dit qu'elle ne changeait rien, en particulier dans la doctrine, et certains ont pu être déçus en pensant, excusez-moi l'expression, que la montagne avait accouché d'une souris. Je crois au contraire que ce texte est marqué d'une belle nouveauté, et qu'il va nous obliger à changer. Rappelez-vous, l'encyclique Laudato aussi, sur le soin à notre maison commune, nous invitait à une conversion culturelle et écologique dans nos manières d'imaginer, de penser et d'agir. Eh bien, il en est de même pour Amoris Laetitia. Cette exhortation nous invite, je crois, à une triple conversion. Une conversion du regard sur la réalité familiale, une conversion sur l'expression et la compréhension de la doctrine de l'Église sur le mariage, enfin une conversion dans la pratique pastorale. Alors je vais aborder ces trois conversions successivement. Commençons par la conversion du regard. Je crois qu'il est frappant de voir combien le pape insiste sur la nécessité pour l'Église, les pasteurs comme les fidèles d'ailleurs, d'adopter le regard de Jésus lui-même. Il reprend une expression des pères du synode en disant que Jésus a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu'il a rencontrés, en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du royaume de Dieu. Numéro 60, vous pourrez aller voir. Le chapitre 3, qui se veut un petit résumé de la doctrine, est d'ailleurs intitulé « Le regard porté sur Jésus ». La vocation de la famille. Ça veut dire que c'est en contemplant le Christ, en contemplant la manière de faire du Christ, visage de la miséricorde de Dieu, que nous saurons comment regarder et évaluer les situations familiales diverses, avec leurs faiblesses et leurs fragilités. Je vous donne deux citations, deux extraits pour vous donner une idée. Au numéro 70, le regard du Christ, dont la lumière éclaire tout homme, inspire la pastorale de l'Église à l'égard des fidèles qui vivent en concubinage ou qui ont simplement contracté un mariage civil ou encore qui sont des divorcés remariés. Et puis au numéro 291, illuminée par le regard du Jésus-Christ, l'Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète. Ce n'est donc pas, voyez, un regard critique, inquisiteur ou jugeant a priori, mais un regard aimant, miséricordieux et valorisant ce qui est bon, qui est mis à l'œuvre. Et dès le départ, le pape resitue cette exhortation dans le cadre de l'année jubilaire sur la miséricorde, et sur laquelle d'ailleurs il revient de manière significative, à la fois au début et à la fin de son document. Cette conversion du regard, ce n'est pas simplement une invitation à adopter un regard miséricordieux, celui de Dieu lui-même d'ailleurs, c'est aussi une invitation au réalisme, à l'attention portée aux situations concrètes des familles. Alors ça, c'est un autre leitmotiv des propos du pape. En bon pasteur, je dirais, il invite à rejoindre l'expérience réelle des couples, dans leurs choix et leurs difficultés, leurs angoisses et leurs espoirs, pour mieux les accompagner et mieux les soutenir. Le souci est constant de ne pas en rester, je cite, à un idéal théologique du mariage trop abstrait, presque artificiellement construit, loin de la situation concrète et des possibilités effectives des familles réelles. Donc à la suite des deux synodes, le pape reprend longuement une analyse de la situation actuelle avec sa complexité et ses variations, je dirais, avec ses lumières et ses ombres. Il reprend toutes les difficultés auxquelles sont affrontées les familles du monde entier dans leur grande diversité. Il insiste beaucoup sur cette diversité. Il élargit le regard de la pastorale familiale et il rappelle aussi l'importance des conditions matérielles et sociales qui encouragent ou découragent la croissance de l'amour dans les familles, et notamment le travail, l'attention au logement, l'attention à la question de la pauvreté, de la migration, du vieillissement, du handicap. Vous voyez que s'il s'agit de s'approcher des personnes pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du mariage, encore faut-il les rejoindre au point où elles en sont. C'est là où Dieu nous attend. Et je cite, « La présence du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts quotidiens. » Donc vous voyez, première conversion, un regard miséricordieux et un regard réaliste. Deuxième conversion, c'est la conversion dans la manière d'exprimer et de comprendre la vocation chrétienne du mariage. Le pape ne renonce à aucune exigence de l'Évangile. Je cite, « En aucune manière, l'Église ne doit renoncer à proposer l'idéal complet du mariage, le projet de Dieu dans toute sa grandeur. Et il y a des situations qui sont clairement opposées à ce dessein d'amour, précise-t-il. Mais cet idéal de l'amour n'est pas présenté comme un acquis, un état acquis une fois pour toutes avec le mariage, mais comme ce qui guide et oriente vers un chemin de croissance et de maturation permanent. C'est un exode jamais terminé sous l'effet de la grâce. Et c'est assez remarquable de constater combien le pape nous invite à porter une grande attention à l'histoire, à la condition historique de notre vie. Voilà. Le mariage, l'amour, la vie familiale, c'est dans le temps, c'est dans l'histoire. Il y a des croissances, il y a des maturations, il y a des crises, il y a des difficultés, il y a des joies. Et c'est tout ça qu'il faut regarder. Et si vous avez la curiosité de regarder la fréquence des mots dans le texte, vous constatez que les mots « temps »,« chemin », »,« croissance », »,« maturation », »,« parcours », »,« processus », tous ces mots se retrouvent partout dans le texte. On insiste sur la dynamique qui doit habiter la construction de l'amour et la nécessité de l'accompagner avec patience. Je cite le paragraphe de conclusion de tout le propos du pape qui dit « Nous l'avons rappelé plusieurs fois dans cette exhortation. Aucune famille n'est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d'aimer. Il y a un appel constant qui vient de la communion pleine de la Trinité, de la merveilleuse union entre le Christ et son Église. C'est une telle compréhension de l'amour en chemin qui permet à l'Église d'accompagner avec miséricorde les situations familiales les plus diverses, tout en rappelant les exigences d'un amour authentique à construire. » Vous voyez donc, première manière de voir, un amour en croissance, toujours en maturation. Deuxième aspect de cette conversion, je crois, de la manière de comprendre, c'est que la vocation de la famille est placée sous le signe de la joie. C'est le titre même, d'ailleurs, de l'exhortation. Et une joie pour tous. Le mariage chrétien est une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle pour l'Église et pour la société. Comme il l'indique dès le début, le désir de famille reste vif dans nos sociétés, en particulier chez les jeunes, bien sûr, chrétiens ou non d'ailleurs. Ce qui motive l'Église pour dire la beauté de l'amour conjugal et familial, la joie et le bonheur qu'il procure lorsqu'il est l'expression d'un don de soi à l'autre, vécu de manière définitive, fidèle et ouvert à la vie. Un amour auquel le sacrement de mariage apporte l'appui de la grâce du Christ, un Christ présent à chacune des histoires diverses qu'il aborde. Une grâce pour perfectionner, encourager et faire grandir cet amour. Donc le mariage n'est pas simplement, je dirais, le signe historique, comme il le dit, de l'amour de Dieu dans le monde. C'est aussi une vocation essentielle et irremplaçable pour la société elle-même, et il y insiste. Je le cite, « Les couples chrétiens peignent le gris de l'espace public en le remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse et de l'espérance active. » Voilà, une belle perspective du rôle social de la famille. Donc vous voyez que l'exhortation ne se contente pas de rappeler l'idéal de l'amour du couple chrétien, elle en montre aussi la fécondité sociale, elle en montre cette fraternité qui constitue comme une promesse, dit-il, qui rayonne sur toute la société. Donc vous voyez que le pape ne sépare pas la pastorale familiale de son cadre sociétal plus large, et il invite à vivre cette pastorale essentielle, évidemment, dans l'Église, en lien avec, je dirais, ouverte sur le monde, ouverte sur les attentes du monde. Je note également, dans cette manière de voir le mariage, la famille, qu'il y a des accents un peu inédits pour un texte magistériel, parce qu'on parle beaucoup de tendresse, de désir, de passion, notamment les chapitres 4 et 5, qui sont une magnifique méditation sur l'amour et dans lequel les couples auront sans doute plaisir à lire. Voilà, il y a un hymne à l'amour très beau, hein, le commentaire dans le chapitre 4 de l'Épître aux Corinthiens sur l'hymne à l'amour est tout à fait extraordinaire. Et il y a une dimension très incarnée, très charnelle de l'amour, qu'aucun document du magistère, me semble-t-il, n'avait autant exploré auparavant. Ça m'amène à la troisième conversion. L'appel à adopter un regard de miséricorde à la suite de Jésus, tout comme la considération de l'amour comme un chemin pour tous, m'amène à la troisième conversion, celle de l'action pastorale. C'est le titre du chapitre 8 qui nous donne la clé. Accompagner, discerner et intégrer la fragilité. Prendre en compte l'histoire et la croissance de l'amour au sein des familles exige donc une pastorale qui ne reste pas figée sur la conformité à la règle ou à un idéal souhaité, mais qui désire accompagner toutes les familles, quelle que soit leur situation, pour les encourager, pour les soigner. Le pape a des propos très durs à l'égard de ceux qui, je cite, « cœur fermé », ferait de l'enseignement de l'Église sur le mariage et la famille la pure défense d'une doctrine froide et sans vie, pour la transformer, dit-il, en pierre morte à lancer contre les autres. Fait une allusion, évidemment, à l'épisode de la femme adultère. Et c'est ainsi que les pasteurs, dit-il, ne peuvent pas se sentir satisfaits en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières, ni poser des jugements trop durs ou impatients. Et il reprend le thème de la gradualité qui avait déjà été exposé par le pape Jean-Paul II dans Familiari Consortio en insistant sur trois mots clés: accompagner, discerner, intégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments positifs déjà vécus par les familles qui ne vivent pas complètement, hein, la plénitude et l'incomplétude, ça c'est des mots assez clés pour lui, ceux qui ne vivent pas complètement encore l'idéal, eh bien, les éléments positifs déjà vécus par ces familles sont à valoriser. Je le cite, « en cherchant à les transformer en occasion de cheminement vers la plénitude du mariage et de la famille à la lumière de l'Évangile. Il s'agit, dit-il, de les accueillir et de les accompagner avec patience et délicatesse. Le mot d'ordre, dit-il, c'est d'intégrer tout le monde. Intégrer tout le monde pour aider chacun à trouver sa propre manière de participer à la communauté ecclésiale. Personne ne peut être condamné pour toujours, dit-il, parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Et le pape précise, je ne me réfère pas seulement aux divorcés engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en quelque situation qu'ils se trouvent. Dès lors, une invitation est faite aux fidèles comme aux pasteurs de bien discerner les situations, à la fois pour être fidèles à la vérité, c'est-à-dire en distinguant les situations, en faisant la vérité sur le point vraiment où en sont les gens, en distinguant les cas, en prenant en compte les circonstances, les conditionnements, mais aussi pour exercer la charité pastorale, pour découvrir le pas qui peut être fait pour aller de l'avant dans une plus grande participation à la vie ecclésiale. Vérité et miséricorde vont ensemble. Je le cite, c'est le numéro 300, tout à fait important. Si l'on tient compte de l'innombrable diversité des situations concrètes, on ne devrait pas attendre du synode ou de cette exhortation une nouvelle législation générale du genre canonique applicable à tous les cas. Il faut seulement un nouvel encouragement au discernement responsable, personnel et pastoral des cas particuliers qui devrait reconnaître que, étant donné que le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas, les conséquences ou les effets d'une norme ne doivent pas être nécessairement toujours les mêmes. Et je continue la citation. Les prêtres ont la mission d'accompagner les personnes intéressées sur la voie du discernement selon l'enseignement de l'Église et les orientations de l'évêque. Fin de citation. Le pape indique donc que ce discernement peut également valoir pour la discipline des sacrements. C'est des notes tout à fait en bas de page. Si la doctrine du mariage et des sacrements est claire, elle exige évidemment d'être mise en œuvre selon la miséricorde divine qui est le cœur de la révélation pour le pape. Et je dirais de le mettre en œuvre à l'exemple de Jésus, qui lui-même, dit le pape, se présente comme le pasteur des 100 brebis, pas seulement des 99. Il les veut toutes, dit-il. Un tel examen des situations singulières s'appuie sur une confiance renouvelée faite à la conscience informée des fidèles et au travail de la grâce en chacun. C'est une insistance forte du pape, le travail de la grâce présent partout, finalement. Quelle que soit la situation, la grâce est là, il faut l'encourager. Le pape le souligne à plusieurs reprises, nous sommes appelés à former les consciences, mais non pas à prétendre nous substituer à elles. Autre citation, la conscience des personnes doit être mieux prise en compte par la praxis de l'Église dans certaines situations qui ne réalisent pas objectivement notre conception du mariage. Évidemment, il faut encourager la maturation d'une conscience éclairée, formée et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du pasteur, et proposer une confiance toujours plus grande dans la grâce. Et voyez qu'il invite, à la fin d'ailleurs de son propos, il invite les fidèles et les pasteurs à avoir confiance dans le fait que, dans un chemin ensemble, les personnes en difficulté découvriront en conscience la réponse généreuse à donner à Dieu. Voilà, un chemin ensemble. Discernement personnel et pastoral. Chacun est invité à faire son discernement et les pasteurs sont aussi invités à faire un discernement. Mais c'est à deux ou à plusieurs. En conclusion, je crois qu'il faut redire que ce texte invite à une conversion permanente pour nous ajuster toujours davantage à la manière de faire du Christ. Tout comme les familles, l'Église est en chemin, en synode, et il en sera ainsi, dit-il, jusqu'à ce que l'Esprit nous conduise à la vérité tout entière, c'est-à-dire lorsqu'il nous introduira parfaitement, dit le pape, dans le mystère du Christ et que nous pourrons tout voir à travers son regard. Vous voyez, je reviens sur le thème du regard. Et le pape, pour ça, compte sur le temps, toujours supérieur à l'espace, comme il aime à le répéter. Il vaut mieux créer des processus, c'est-à-dire des éléments de travail à long terme avec d'autres, plutôt que de posséder des espaces de pouvoir dans l'impatience de résultats immédiats. Et si le pape est garant de l'unité, tout ne doit pas être tranché par des interventions magistérielles, dit-il, et il fait appel à la nécessaire inculturation des solutions selon les situations et les églises locales. Donc vous voyez que la conversion ecclésiale, c'est aussi celle de la synodalité, c'est-à-dire du travail ensemble, d'une certaine décentralisation. Et je sais que les diocèses sont déjà au travail pour mettre en œuvre cette orientation. Ils seront sollicités beaucoup pour mettre en œuvre tout ça. Le pape est conscient que cette orientation pastorale est exigeante. Il le souligne. Hein. Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide, qui ne prête à aucune confusion. Et sans doute, certains pasteurs et fidèles seront-ils déroutés ou inquiets par cet appel au discernement, à l'examen des cas particuliers, qui demandera un travail de vérité, de patience, de délicatesse, un travail de formation également. Mais il y a une conviction profonde qui oriente tout le propos du pape. Je le cite. Je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une église attentive au bien que l'Esprit répand au milieu de la fragilité. Une mère qui, en même temps qu'elle exprime clairement son enseignement objectif, ne renonce pas au bien possible, même si elle court le risque de se salir avec la boue de la route. Vous voyez, une église qui ne craint pas de se salir sur le chemin. C'est donc bien une conversion missionnaire à laquelle toute l'église est invitée, pour devenir davantage témoin de la joie, du bien et de l'amour du Seigneur qui accompagne son peuple sur son chemin. Enfin, si le pape ne remet aucunement en question l'idéal du mariage, je crois que la nouveauté du propos est dans le rapport à cet idéal et dans sa mise en œuvre pastorale. Il s'agit de dépasser une classification des situations familiales en régulières ou irrégulières, terme que le pape n'aime pas, car une logique binaire exclut au lieu d'intégrer. Il s'agit de sortir du simple parmi et défendu pour aborder l'idéal avec réalisme, sans occulter les fragilités et la complexité de la vie. Tous sont en chemin, rappelle-t-il. Tous sont dans une croissance de l'amour et tous ont besoin de la miséricorde. Tous ont besoin de l'appui de la grâce. C'est donc une éthique et une pastorale pour tous que le pape propose. C'est pas une éthique élitiste, c'est une éthique pour tous. C'est une invitation faite à toute l'Église d'entrer davantage dans une attitude d'écoute, d'encouragement, de soutien, d'accompagnement de toutes les familles. En un mot, une pastorale familiale joyeuse, positive et miséricordieuse. Merci.
Merci beaucoup Alain de cette présentation très claire de l'exhortation synodale, d'avoir mis en lumière aussi la nouveauté du texte, cette triple conversion du regard qui n'est pas seulement une invitation à adopter la miséricorde de Dieu lui-même, mais aussi une invitation au réalisme, à l'attention portée aux situations concrètes de famille, la conversion sur la compréhension de l'expression de la vocation du mariage, ce qui guide, ce qui oriente vers un chemin de croissance et de maturation permanente avec la grâce du sacrement, et puis cette conversion de la pratique pastorale avec ces triples mots accompagner, discerner, intégrer, être donc pas seulement du côté de la conformité à la règle, mais vraiment ce qui vise à accompagner le travail de la grâce dans toutes les familles. Alors on voit bien que c'est une nouveauté exigeante, qui peut effectivement nous déstabiliser, notamment cette notion de discernement, voilà, comment s'y prendre. On aura sûrement l'occasion de revenir dans le débat sur tous ces points. Je passe maintenant la parole à Madame Pascale Vidal, qui, située différemment, nous dira aussi maintenant comment elle a reçu cette exhortation synodale du pape François.
Merci. Alors, situé différemment, je ne sais pas, parce que là, Après avoir écouté Alain Thomassé, je crois que je vais pouvoir jeter un tiers de ce que j'ai écrit. Ce qui, en tant que psychanalyste, me pose une question, je fais deux hypothèses. Soit je suis vraiment tombée dans la marmite jésuite et j'en suis pas sortie. Soit ce que dit le pape touche profondément chacun d'entre nous, humainement. Et c'est vrai, j'ai relevé beaucoup de points qui ont été relevés par Alain Thomassé. Alors, comme les règles de communication disent que vous avez entendu 10% de ce qu'il a dit, et je vais me permettre de répéter certaines choses, et que vous allez entendre 10% de ce que je dis aussi, les psychanalystes disent en plus que sur les 10%, il y a 50% de malentendus. Donc, je crois qu'on va pouvoir être tranquille au niveau des répétitions. J'ai nécessairement lu cette exhortation avec mes filtres, les filtres de mes intérêts et de mon histoire. En plus d'être psychanalyste mariée, mère d'enfants biologiques et pas biologiques, je coanime avec mon mari depuis très longtemps une aumônerie de lycée. Et nous avons été éducateurs du clerc pendant 15 ans. C'est de cette expérience-là que j'ai tiré une particulière sensibilité sur le discours de l'Église et la manière de le transmettre. De le transmettre sur le sens et pas sur le versant permis défendu. Il y a d'abord ce point-là, et après le fait d'avoir vu partir des amis de l'Église à cause du discours de l'Église sur la sexualité. C'est ainsi que est né le livre « Les cathos et la sexualité ». Je vais partager avec vous trois points qui m'ont les plus touché dans ma lecture. J'aurais pu en prendre d'autres parce que le pape aborde beaucoup de thèmes. J'ai intitulé ces trois points « Où es-tu ? Où sont les enfants ? Et où est le lien indissoluble ?» Premier point. En utilisant la première personne, le « je », le pape vient s'asseoir à côté de nous pendant notre lecture. Mais tout de suite, au paragraphe 15, il convoque Dieu à travers le texte d'Apocalypse 3:20. Il va utiliser le même texte pour fermer l'exhortation. Qu'est-ce que dit Apocalypse 3:20 ? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Donc nous sommes bien entourés dans la lecture, Dieu d'un côté, le pape de l'autre, provoquant un renversement inédit, car soudain la question de « est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas ?» est complètement décalée. Parce que l'invitation est tout autre. Que cherches-tu ? Que cherchez-vous dans la Bible ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Invitation qui l'accompagne d'une vertu que le pape qualifie de quelque peu ignorée en ces temps de relations frénétiques et superficielles, la tendresse. Alain Thomassé l'a relevé, je la relève aussi, 23 occurrences de la tendresse dans cette exhortation. Dans ce climat-là, les thèmes sont abordés dans le fond. Et les questions du type « Que voulons-nous vraiment une fois que nous ne pouvons plus nous opposer ?» se posent. Être dans le contre, vous savez, les psychanalystes aiment bien le contre. Surtout en français, on peut faire un jeu de mots. Être dans le contre, c'est être à l'opposé et tout contre. Que voulons-nous vraiment une fois que nous ne pouvons plus nous opposer? Qu'est-ce qui a du sens pour nous, là, aujourd'hui, dans notre vie, dans la vie de ceux qui nous sont chers? Il s'agit d'accompagner chacun et nous-mêmes dans notre fragilité humaine et nos réalités très différentes. Ainsi, on ne devait pas attendre du synode ou de cette exhortation une nouvelle législation générale du genre canonique, applicable à tous les cas, dit-il. Il nous est rappelé que le message de l'Évangile est un message d'amour et de tendresse à l'image du Christ et non une doctrine imposant des normes autoritaires. Il nous demandait de privilégier une pastorale positive, accueillante, menant à l'approfondissement progressif des exigences de l'Évangile, favorisant une formation de la conscience, présentant les raisons et les motivations qui nécessitent une conversion missionnaire, qui ne critique pas, qui ne juge pas. Dans le paragraphe 305, il dit « Un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales. Le respect excessif de la loi permet, dit-il, de nous garder distants du cœur des drames humains. » Et je rajouterai « Et peut-être de nous donner une bonne conscience à bon compte. » Je vais prendre une image que j'aime bien, que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la première parole adressée à Adam, à l'homme petit h. Pas à l'humain, à l'homme petit h. Après la chute, après la faute, Dieu appelle Adam et lui dit « Où es-tu ?» J'ai la faiblesse de penser que Dieu ayant créé le paradis et l'humain, il y a très peu de chances que ce soit une question géographique. Et que ça se rapproche beaucoup plus de l'expression utilisée par les jeunes maintenant, mais t'es où là, toi, quand tu fais ça ou ça? Où es-tu? Ce qu'il va dire d'ailleurs dans le paragraphe 261, où il se trouve dans un sens existentiel, où se trouve le sujet dans un sens existentiel. Si bien que ce « où es-tu », il est important parce que si c'est cette question-là qui nous est posée après la mort, quand il faudra rendre des comptes, on pourra difficilement dire « j'ai suivi, j'ai pas suivi, j'ai fait ci, j'ai fait ça » parce que la question risque d'être « ok, mais toi ?» T'étais où? T'étais où avec les talents que je t'ai donnés? Alors, dans cette question du discernement, se pose... Quand j'en ai discuté un jour avec une femme croyante, elle a dit d'une manière impulsive, enfin, ça partait du cœur, elle dit « Mais alors si c'est une question de discernement, à qu'est-ce qui va tenir ?» Sous-entendu, qu'est-ce qui va tenir dans la loi de l'Église ? C'est plus facile de suivre une loi que de se poser la question de savoir ce que je fais ou pas. Si ça a un sens pour moi ou pas. Je prends souvent l'exemple du feu qui est rouge, qui est en bas de chez moi. Le jour où, j'espère que ça ne se passera pas, j'ai un de mes petits-enfants qui est malade et que je dois amener à l'hôpital, le feu rouge, en faisant attention, je vais le griller. Parce que si mon gamin se vide de son sang dans ma voiture, la question c'est pas de respecter le feu rouge. Ça ne veut pas dire que le feu rouge n'a pas un sens. Ça veut dire que là, aujourd'hui, dans cette situation-là, il était inadéquat. À cette vitesse-là, je ne vais jamais tenir 20 minutes. Non, ça. C'est une, je prends souvent cette image du chêne et du roseau. Relisez la fable de La Fontaine. On préférait tous être chêne. Au moins, c'est clair, c'est figé, c'est droit, on sait où on en est. Le roseau, ça n'arrête pas de bouger, sous un vent qu'il ne contrôle pas, ne comptant que sur sa structure intérieure. Je pense que c'est ça ce qui nous est demandé. C'est d'interroger cette richesse intérieure qui nous fait tenir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième. Où sont les enfants ? Professionnellement, j'ai un cabinet, mais je travaille aussi en pédiatrie, en consultation conjointe avec un pédiatre. Consultation conjointe, ça veut dire que pour le même prix, ils ont le pédiatre et la psy. Il y en a qui viennent pour, mais il y en a, ils ne sont pas contents du tout. De tomber sur un chapitre entier, le septième, sur l'éducation des enfants, m'a surprise et ravie. J'ai bu du petit lait. Le pape, d'ailleurs, en prend acte dès le tout début du document, que l'éducation est rendue plus exigeante et complexe en raison de la situation culturelle et de la grande influence des médias, et que c'est à la fois un grave devoir et un droit primordial des parents. Et puis, à ma grande surprise, il va insister beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'abandon des enfants. L'abandon spirituel, je ne suis pas en train de parler d'adoption. L'abandon spirituel, éducatif et affectif, il emploie même le terme d'orphelin. Il y a 9 paragraphes là-dessus. Il n'est pas bon que les enfants soient sans parents et qu'ils cessent prématurément d'être enfants. Une mère dit, mais vous avez déjà entendu ça, « Heureusement qu'il est là, mon fils, car sinon, je ne sais pas ce que je deviendrais depuis le départ de son père. » Si cette mère s'appuie sur son fils, sur qui s'appuie le fils ? Ce renversement, on le rencontre beaucoup, beaucoup en pédiatrie. C'est ce que j'appelle un enfant en position de soutien parental. Et ça peut commencer très, très tôt. Va suivre dans l'exhortation plus d'une vingtaine de recommandations sur l'éducation. Ça commence d'ailleurs au tout début par les repas pris ensemble. C'est très concret. Je ne vais pas tous vous les citer, ce serait ennuyant. Donc, mais il y en a quelques-uns que je trouve très croustillants quand même. Les repas qui sont pris ensemble, il rappelle 2 fois les 3 mots clés « s'il te plaît, merci, pardon ». C'est quand même la base de la base. Il parle de correction adaptée et aimante, de l'éducation, la distinction entre acte volontaire et acte libre, la prise de conscience d'appartenir à une maison commune dans une attitude écologique, l'utilisation réfléchie des nouvelles technologies, une valorisation de la pudeur. L'enfant n'est pas une possession capricieuse et il est rappelé plusieurs fois que c'est un don et pas un dû. Ça ne l'empêche pas de rappeler que les enfants doivent honorer leur filiation dans 2 chapitres, 17 et 189, qu'ils sont inscrits dans leur histoire petit h et dans l'histoire grand h. Ceux qui rompent les liens avec l'histoire auront des difficultés à construire des relations stables et à reconnaître qu'ils ne sont pas les maîtres de la réalité. C'est quelque chose qui me touche en tant que psychanalyste, c'est-à-dire que viennent dans mon cabinet des gens, des parents avec leurs enfants, pendant 2 ou 3 fois, simplement pour ce que j'appelle, pardonnez ma familiarité, redresser les boulons. C'est-à-dire avant, c'était le travail de la grand-mère, de la tante, du parent qui était là, mais là, ils viennent chez moi pour entendre une parole qui les rassure, qui les aide. Il va reprendre aussi de manière très distincte, je ne détaille pas, mais le rôle du père et de la mère, hein, dans plusieurs paragraphes. Nous constatons quotidiennement à l'hôpital les dégâts médicaux considérables causés par la débâcle de l'éducation. Carence alimentaire, carence de sommeil. En moyenne, un enfant manque de 2 heures de sommeil par jour. Après, on parle d'hyperactivité. Pardon, mais quand on parle d'hyperactivité, la première question, c'est à quelle heure tu te couches et à quelle heure tu te lèves. Parce que comme je dis aux parents, si je vous supprime 2 heures de sommeil là, aujourd'hui, lundi, j'aimerais voir votre état lundi prochain. Donc des traitements de l'hyperactivité injustifiés, hypostimulation, surpoids, etc. Avec des arguments qu'il faut entendre sur le fond. J'ai peur qu'il ne m'aime plus si je lui dis non. Je n'ai pas envie de me battre après ma journée de travail. Je le couche plus tard, sinon je ne le vois pas. Je ne vais pas le laisser sans manger. Le pauvre, il n'a pas envie de manger ça. Alors il faut que je lui donne autre chose. Tous ces symptômes ont évidemment des racines qui ouvrent un chantier de travail énorme. Le premier, c'est l'absence des parents, avec le questionnement de qui est pour moi mon prochain combat, c'est la revalorisation du travail de la mère au foyer. On ne doit plus entendre aujourd'hui l'expression « je ne travaille pas » quand on élève 1, 2, 3, 4 ou je ne sais pas combien d'enfants. C'est pas possible. Et c'est une femme mère de famille qui vous parle. Parce que la femme aujourd'hui mère de famille n'a pas le choix entre travailler à l'extérieur ou travailler à la maison. C'est pas vrai. Parce qu'il n'y a aucune reconnaissance de ce travail. Donc, absence des parents avec la question de la revalorisation du travail de la mère au foyer. Isolement de l'éducation. Les parents ont voulu, je crois, pendant un certain temps, dire « c'est mon gamin, je m'en charge, je vais savoir faire ». Et se retrouvent seuls à gérer des difficultés qui les morcellent. Donc une reprise de conscience collective de l'éducation, le pape en parle, selon le proverbe africain, ça c'est moi qui le dis, qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Il reprend en disant, le pacte éducatif entre famille, école, société s'est rompu. Ainsi, l'alliance éducative est entrée en crise. Le pape nous confie donc de soutenir les parents dans leur rôle éducatif et nous rappelle que les enfants sont des pierres vivantes de la famille, mais ne sont pas une propriété de la famille. Ça, je pense que c'est aussi un chantier. C'est la phrase de Khalil Gibran qui dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Que je mets en parallèle volontiers avec « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?» Moi, en tant que mère de famille, chaque fois, même si j'ai bien travaillé le texte, j'ai envie de le dire « Oh, ta mère, c'est... Hein » Et pareil à Cana, c'est un évangile dont je me sers souvent pour les parents quand on... Je travaille la question de l'adolescence, Cana, parce que « femme, que me veux-tu » J'avais très envie de lui dire « c'est à moi que tu parles ». Mais je suis pas Marie, c'est la très très grande différence. Justement parce que Marie fait confiance. Ce qui est la trame de cette exhortation. Faire confiance à l'humain. Troisième point. Où est le lien indissoluble? Quand j'attendais cette exhortation au tournant, depuis longtemps, mais pas sur la question des divorcés remariés, sur la question de la contraception. Et mon premier réflexe a été de taper dans le moteur de recherche, quand j'ai reçu l'exhortation, contraception. Alors, ça n'a pas été un grand vide intersidéral, parce qu'il y a une occurrence. Une occurrence qui parle des États qui, et de leur manière coercitive d'utiliser la contraception. Je dis, bon, ok, je suis d'accord. Mais bon, alors j'ai cherché autrement. J'ai cherché méthode de régulation. Deux occurrences. Il faut redécouvrir le message de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah non, ça va pas recommencer. Non, parce qu'après, il faut faire la pastorale de ça. Qui souligne le besoin de respecter la dignité de la personne, je suis d'accord, dans l'évaluation morale des méthodes de régulation des naissances. Bon, j'étais d'accord. Ça, c'était le paragraphe 82, puis il y a le paragraphe 222. D'un commun accord et d'un commun effort, les époux se formeront un jugement droit. Ils prendront en considération à la fois leur bien et celui des enfants, déjà nés et à naître. Ils discerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles de leur époque et de leur situation. Il faut toujours se rappeler que là, aujourd'hui, on est à Paris, mais que la même exhortation sera lue et devrait être applicable à Niamey. Ils tiendront compte enfin du bien de la communauté familiale, des besoins de la société temporelle et de l'Église elle-même. Ce jugement, ce sont en dernier ressort les époux eux-mêmes qui doivent l'arrêter devant Dieu. À propos des méthodes naturelles, il va le citer une fois, on mettra en lumière que ces méthodes respectent le corps des époux, encouragent la tendresse entre eux et favorisent l'éducation d'une liberté authentique. Et là, je suis d'accord. Les méthodes naturelles devraient être enseignées au même niveau que les autres méthodes. Pour l'instant, c'est très très loin d'être le cas. Je suis sûre que les idées qui circulent dans la salle à propos des méthodes naturelles sont en grande partie fausses. Et donc, ne permettent pas un vrai discernement et un vrai choix. Après, j'ai cherché paternité responsable, mais ça, tout le monde a entendu que les cathos étaient plus des lapins. D'ailleurs, je l'avais écrit en 2011, j'aurais bien aimé qu'il me cite, d'ailleurs, hein, parce que je l'avais dit. J'ai été déçue car je m'attendais à une réflexion de fond sur la signification profonde de l'indissolubilité de l'union et de la procréation, parce que c'est ce principe-là qui est à la base du discours de l'Église sur la régulation des naissances. Principe dont la violation entraîne des conséquences considérables aujourd'hui, non seulement au niveau de la contraception, mais en matière de procréation médicalement assistée et de vie sexuelle précoce, parce qu'on a dissocié l'union et la procréation. Et à entendre ça uniquement sur la version lapin, on perd la substantifique moelle de ce qui est dit. Je vous recommande d'ailleurs à la lecture un article de Marika Moiseff, qui n'est pas du tout catho, on le voit tout de suite dans les trois premières lignes, qui a écrit un article qui s'appelle « L'indépendance entre sexualité et procréation, un mythe de la culture occidentale ». L'acte d'engendrer est devenu indépendant de la relation sexuelle entre l'homme et la femme, dit-il. Alors, je suis déçue, mais néanmoins, il met l'accent, ça Alain Thomassier l'a dit, mais je le redis, met l'accent à plusieurs reprises, par le biais inattendu de l'érotisme, sur l'importance de l'union sexuelle. Trois paragraphes réexpliquent pourquoi la sexualité des époux n'est pas et ne peut pas être l'objet ni de mépris ni de refus. Le mariage est un don du Seigneur qui inclut la sexualité. Ne vous refusez pas l'un à l'autre dans 1 Corinthiens 7,5 qui est cité. Un amour sans plaisir ni passion n'est pas suffisant pour symboliser l'union du cœur, humain avec Dieu, etc. Il y a plusieurs paragraphes qui citent. Pourquoi je reparle de ça? C'est parce que j'ai entendu plusieurs témoignages, encore aujourd'hui en 2015, qui disaient que l'idéal de la sexualité, c'était Marie-Joseph. C'est-à-dire absence de sexualité après avoir fait des enfants. Ce que je lis personnellement comme une manière de régler un peu vite la difficulté de la communion entre l'homme et la femme. Je vais le reprendre ce point-là, ce sera l'objet de mon prochain livre. C'est la difficulté à entendre la communion entre l'homme et la femme. Il va ouvrir les concepts, premier point, l'importance de l'union sexuelle, et deuxième, il ouvre les concepts de fécondité, de maternité et paternité. C'est plus uniquement une histoire de faire des enfants. Et je pense que dans l'indissolubilité de l'union et de la procréation, c'est ça, c'est pas uniquement une histoire d'union sexuelle et de fécondité génitale. Donc il ouvre ces concepts à chacun d'entre nous. Marié ou pas. La fécondité ne concerne pas que les gens mariés. Je crois que nous sommes dans un monde qui fuit la communion. Parce que c'est compliqué. Et c'est une mère de famille mariée depuis 33 ans avec le même qui vous parle. À la fois convaincu et n'ayant que c'était le bon choix et qu'en plus pas du tout envie d'en changer, mais aussi dans un vécu de la difficulté de mettre en harmonie en permanence à travers le temps deux personnes qui sont câblées de manière différente et pas qu'il y en ait un qui se fonde derrière l'autre. Je crois, pour moi, je n'ai pas le temps de développer, que c'est la racine de tout ce qui se dit à propos du genre et de la laïcité. L'idéal, ce serait tracé en céphalogramme plat, pas de différence. C'est ça l'idée qu'on a. C'est qu'enfin, là, on serait libre, tranquille et plus obligé de s'adapter en permanence. Conclusion. Rapide. En matière de discours de l'Église sur la sexualité, il est souvent utile, si on veut avoir une vraie attention de ceux avec qui nous parlons, de commencer par un mea culpa. Ce que le pape fait dès le paragraphe 36. Il nous faut une salutaire réaction d'autocritique. Reconnaissant les souffrances provoquées par les maldits de l'Église. La survalorisation de la procréation, non-accompagnement des couples, la présentation d'un idéal abstrait, et je rajouterai, parce qu'il le fait un peu plus loin, le discours sur l'homosexualité. Nous avons largement contribué à provoquer ce dont nous nous plaignons aujourd'hui. Il nous en coûte de laisser la place à la conscience des fidèles, laisser la place à la conscience, croire en la présence intérieure d'un maître beaucoup plus important que nous, en 320, faire confiance, voilà ce à quoi le pape nous invite. Je m'arrête là. Merci.
Merci beaucoup, Pascal Vidal, pour ces propos très personnels suite à la lecture de cette exhortation sur la famille. Vous nous aviez invité finalement à regarder où on se situe chacun personnellement et en regardant d'abord où se situe le pape comme un pasteur qui accompagne la fragilité humaine et qui finalement repose les questions fondamentales de la Bible. Que cherches-tu? Que veux-tu que je fasse? Où es-tu? Mais aussi où sont les enfants? Avec cette insistance très importante que vous avez eue sur l'abandon spirituel, éducatif et affectif des enfants, et donc toutes les questions que cela pose aux familles. où est le lien indissoluble dans ce texte? Et vous êtes peut-être, vous avez dit, restez un peu sur votre faim, si je puis dire, concernant la question notamment de la procréation, de la contraception, même si vous avez été sensible à l'ouverture des concepts de maternité, de paternité, de fécondité. Je retiens cette phrase aussi, la trame de cette exhortation, c'est la confiance. Alors je crois que c'est quelque chose qui va nous habiter, en tout cas je crois que vos propos nous rejoignent et ouvrent le débat, parce que chacun peut évidemment avoir des conceptions un peu différentes, certains d'entre nous ont lu aussi ce texte et peuvent avoir des lectures différentes. Alors on va prendre le temps, comme on le fait à chaque fois, des questions, des convictions, de manière respectueuse les uns des autres, voire peut-être les points qui nous semblent importants, peut-être les points qui nous semblent vraiment compliqués ou qui nous peut-être nous déstabilisent aussi. Voilà, essayons de mettre ça en commun maintenant. Voilà, il y a deux micros qui vont circuler, donc ceux qui veulent la parole, on va récolter deux ou trois interventions pour commencer. Ah, pardon, voilà, c'était devant, oui.
Non, pas besoin de se lever.
Oui, surtout que je suis grand. Puis au premier voilà. Non, un tout petit témoignage et une question. Alors, le tout petit témoignage, c'est que ma femme et moi avons fait de l'accompagnement, de la préparation au mariage pendant 15 ans. Et, chère madame, nous n'avons pas parlé de sexualité, ou extrêmement peu. Et ça, je le confesse devant vous tous. On n'a pas su. On nous a dit, vivaient ensemble depuis extrêmement. Alors c'était des questions sur la vie à deux, à la fois la vaisselle et les impôts. Bon. La question, alors elle s'adresse au clercs et aux ministres, mais aussi à peut-être ceux qui, parmi vous, ont dans un diocèse la responsabilité de la pastorale de familiale ou des familles, parce que il y a un petit débat là-dessus. J'ai envie de dire, après avoir lu l'exhortation et puis avoir entendu votre très très bonne intervention, cher père, je me demande d'ailleurs s'il ne vaudrait pas mieux décider définitivement de dire frère et pas père. Enfin, là je laisse à la psychanalyste la réponse.
On fera un autre débat là-dessus.
Voilà.
Allez-y, donc, à votre question.
La question est de savoir, j'ai envie de dire, mais quel boulot. Parce que quand nous voyons le temps que nous passons dans les paroisses à au mieux faire de la catéchèse, mais à faire des équipes liturgiques et à multiplier les rites et la liturgie et le peu de temps que l'on passe aux familles. Alors on passait déjà peu de temps en voulant appliquer la règle. Maintenant, si on veut faire du cousu-main, au bigre.
Merci, cher ami, cher frère. Alors, peut-être qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions au milieu. Voilà. Levez bien la main pour que le micro arrive jusqu'à vous.
Si. C'est à propos du discernement et des critères de discernement. Ça me paraît extrêmement complexe. Le pape parle des normes et du discernement, des conditionnements, ce qui peut fournir des pistes de réflexion, mais comment les pasteurs vont-ils pouvoir appliquer ce discernement, selon quels critères? Je faisais une formation et une dame qui participait m'a dit « faudra déménager », suivant l'évêque qu'on a en face de soi. Et bon, ça paraissait un peu abusif, mais voilà, quels sont les critères de discernement qui vont pouvoir s'appliquer? Ça me paraît extrêmement complexe.
Merci beaucoup pour cette très bonne question. Est-ce qu'il y a une troisième intervention avant qu'on redonne la parole à nos invités? Voilà, alors, en haut, levez la main pour qu'on voit bien.
Donc, Éric Dujoncois, je suis responsable de la pastorale des familles du diocèse de Nantes. Alors, juste un petit point en écho, mais ce n'est pas vraiment une réponse. Il y a un point qui n'a pas été soulevé, mais qui, pour moi, me paraît très important. c'est l'insistance du pape sur l'accompagnement, alors dans la durée, mais pour la pastorale des familles, le passage de la pastorale de la préparation au mariage, évoquée par mon frère là-bas, à une pastorale de l'accompagnement au mariage, et qui intègre l'accompagnement immédiat, mais aussi l'accompagnement long terme. Avec aussi, dans cet accompagnement long terme, comment on va accompagner les enfants, nos enfants dans nos familles, mais dans nos écoles, à l'éducation affective et sexuelle, comment on va apprendre à nos jeunes ce que c'est que l'engagement, c'est de la préparation et de l'accompagnement au mariage. Et puis ensuite, après le mariage, comment garder le lien, comment accompagner les couples qui ont vécu un temps extraordinaire avec cette église qu'ils découvrent. Et puis, le jour du mariage, d'ailleurs, il n'y a plus personne que le prêtre et la famille, la communauté paroissiale n'est plus là. Et puis, ils sont partis et on ne les revoit plus, sauf si ils reviennent nous voir avec, avec des enfants à baptiser. Et je voudrais également évoquer, en écho à ce qui a été dit tout à l'heure, la préoccupation liée au discernement. Autant je suis fondamentalement heureux du chemin qui nous est proposé, autant je sens qu'il y a une période un peu délicate sur le plan pastoral pour que l'ensemble de la communauté pastorale, les pasteurs, puissent s'adapter à cette nouvelle façon d'accompagner. Et deux mois après, nous avons déjà dans les diocèses des difficultés par des positionnements qui sont pris par certains pasteurs ou par d'autres pasteurs. Et donc il y a un grand enjeu à accompagner, je pense que c'est le rôle des évêques sans doute, de porter ça dans leur diocèse, à accompagner la formation et l'accompagnement, l'appropriation de cette nouvelle façon de voir par les pasteurs.
Merci beaucoup. Là, je crois qu'il y a, bien matière à réaction. Alain.
Je trouve que les questions sont excellentes. Les réponses ne le seront peut-être pas autant. Je crois que c'est vraiment les questions qui se posent. On voit bien qu'il y a dans ce texte une invitation à changer notre manière de faire, de fait, ou en tout cas à approfondir peut-être ce qui se fait déjà par ailleurs dans certains cas. Mais c'est sûr qu'il va y avoir besoin de formation, d'une formation pas seulement des pasteurs, mais de tous les acteurs pastoraux. Le pape y insiste, hein, c'est pas seulement les pasteurs, c'est les pasteurs et les acteurs pastoraux, c'est-à-dire les premiers acteurs de la pastorale familiale, ce sont les couples eux-mêmes, ce sont les familles. Donc là, il n'y a pas seulement les ministres, mais bien sûr tous ceux qui sont engagés dans cette pastorale si importante. Et c'est vrai que ça va poser des difficultés, je veux dire, on voit bien, c'est-à-dire il va falloir penser la manière de se positionner par rapport à ces différentes situations. Voilà. Alors, je trouve qu'il y a un enjeu d'abord, avant de trop paniquer, j'allais dire, c'est bien lire le texte. Il faut accueillir ce texte d'abord, je trouve que c'est important. N'allons pas trop vite. Le temps supérieur à l'espace. Voilà. Donc il y a un processus, vous voyez que le pape, il lance un processus, c'est ça sa stratégie. Il dit, allons-y, mettons-nous en marche, comme on a mis l'Église en marche avec les deux synodes, et bien c'est pas terminé, on continue. Et on continue, pas au niveau romain, on continue dans les paroisses, dans les mouvements, dans les diocèses. Mais c'est ça qu'il souhaite, je crois, il me semble. Continuons à dialoguer pour déterminer ensemble qu'est-ce qui est bon de faire, comment s'y prendre. Eh bien, on aura besoin de temps pour ça. On aura besoin de se former, sans doute. Et on a besoin de réfléchir ensemble. Voilà. Hein, il y a des diocèses qui ont commencé à travailler, qui ont déjà, où l'évêque invite ses prêtres à se poser des questions. Comment on va faire? Quels sont les critères qu'on va se donner pour discerner? Voilà. Sachant qu'on ne pourra pas tout légiférer, évidemment, et il ne faudra pas légiférer. Il ne faut pas refaire des lois encore plus serrées qu'avant. Parce qu'il n'y a aucun cas qui est semblable à un autre. C'est bien ça le discernement. C'est que, de fait, tout est un peu singulier quand même. Bon. Donc il y a toujours des cas singuliers. Et les cas seront toujours singuliers. En même temps, il y a sans doute un certain nombre de situations suffisamment récurrentes pour qu'on puisse dire, bon, ben dans ces cas-là, quand c'est vraiment clair, il y a sans doute un chemin qui s'ouvre pour une modification de la manière dont on réagit par rapport dans l'accès au sacrement, par exemple. Mais il faut quand même réfléchir avant, et je pense, se mettre soi-même dans le processus de discernement en commun. Je ne réponds pas directement, mais vous voyez, je vous dis, il y a une orientation à prendre. S'inscrire dans la patience, dans la durée, et dans le travail ensemble. Ça, je crois que c'est ça qu'il veut nous dire. Et c'est pour ça qu'il se refuse à donner des solutions toutes faites. Il nous dit, au boulot. C'est vrai. Et il y a du boulot. C'est vrai. Et ça va être... Oui, c'est vrai que les gens ont déjà beaucoup de choses à faire, et c'est pas simple. Je suis bien conscient de ça. Et les critères du discernement, je ne peux pas vous les donner a priori, justement, parce que ça dépend de quoi vous parlez, voilà, si vous parlez de l'accompagnement au catéchuménat, bah, faut discuter avec les gens qui sont engagés déjà dans le catéchuménat. Si vous parlez de la préparation au mariage, ça va être d'autres questions qui vont se poser. Et moi, je ne suis pas spécialiste de tout ça. Vous voyez ? Alors, on peut évidemment donner des attitudes de discernement. On peut former les gens à l'écoute, à la distinction des situations et des cas. Oui, ça, c'est des attitudes intérieures, ça se forme, ça se façonne intérieurement. Mais je ne peux pas vous dire quels sont les critères aujourd'hui. Oui. Mais vous avez raison, il faudra se donner quelques critères en soi, mais pas tout seul.
Pour essayer de compléter ton propos, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de se trouver assez vite désarmé, quoi, enfin, sans éléments de réponse, un peu... sans beaucoup de... Voilà, c'est sûr que les critères de discernement, ils ne vont pas tomber d'en haut. Oui. Ça veut dire tout un processus de formation. Mais ça, effectivement, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, ce que j'ai entendu, c'était quand même un petit peu la crainte à un moment de se trouver un peu sans éléments pour une pastorale, finalement.
Oui, ben, il faut se... C'est-à-dire
oui, il y a l'Esprit Saint, vous avez raison. Vous avez raison de...
Merci. De la grâce, elle joue, là aussi.
Vous avez tout à fait raison.
Mais disons, ça suppose de fait de se mettre en route en synode, quelque part. Voilà. Alors, en synode dans les équipes de préparation au mariage, en synode dans les équipes de catéchuménat, etc. etc. Oui. Moi, je vois bien les diocèses commencent à demander des formations sur le discernement. Oui, bien sûr, ça commence à venir. Et c'est heureux. Et c'est bien. Tant mieux.
Oui, on est plutôt nous pour. Hein.
Oui. Oui.
C'est sûr. Je me faisais l'avocat du diable. Alors, Pascal Vidal, et puis on reprendra des questions après.
La question sur le discernement, je vais reprendre ma casquette de celle qui défend la loi. Ce qui me permet de discerner si je grille ou pas le feu rouge, c'est qu'il y a un feu rouge. Donc, je vais employer un gros mot, mais il y a quelque chose à travailler de l'ordre de l'obéissance et de ce qui résiste à l'obéissance. Pour savoir si ce qui résiste à l'obéissance au cadre qui m'est proposé, ça vient de ma petite histoire, de ma grande histoire, si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est-à-dire d'identifier les liens, les pressions, tout ce qui m'empêche d'être libre. C'est pas le Bouchon qui disait ça. Hein. Le péché, c'est de ne pas être libre. Et à aucun moment, ou alors on s'est pas bien exprimé, Alain Thomassé et moi-même, on a retranscrit le fait que le pape ait dit qu'il fallait jeter la loi à la poubelle. Il a dit, enfin en tout cas j'ai entendu... on la reprend dans le fond. Et c'est ça qui aidera au discernement. C'est-à-dire, au lieu de dire l'Église dit n'importe quoi sur la contraception, c'est qu'est-ce qu'elle dit sur la contraception et pourquoi ? Et comment, moi, je le ressens ? Qui est une question d'écoute, effectivement. Alors, j'entends, je me dis que je dois mal entendre cette question du discernement, parce que de mon écoute professionnelle, c'est mon travail permanent, c'est-à-dire de remettre les gens le plus possible en vérité avec ce qu'ils ressentent. Donc, une écoute singulière, ça c'est sûr, en s'appuyant sur la loi. La question de la grande diversité de ce qui se fait dans les diocèses, mais ce n'est pas déjà le cas. Je ne sais pas. Et un dernier point sur l'accompagnement post-mariage. Je suis touchée du fait qu'il y a quand même pas mal de propositions. Il n'y en a sûrement pas assez. Et elles ne sont pas connues. Et elles sont surtout recherchées quand il y a un gros problème. Et peut-être qu'elles auraient à être plus connues. Mais je crois qu'en tout cas, par rapport à il y a 30 ans, il est clair qu'il y a beaucoup plus de propositions d'accompagnement. Elles ne sont pas suffisantes, mais il y en a.
Alain, pour ajouter quelque chose avant qu'on reprenne des questions.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec votre insistance sur le fait que la loi est essentielle, évidemment, pour faire la vérité. Et qu'elle c'est un repère essentiel pour la conscience. Et donc, pour faire la vérité, c'est le premier élément de discernement, faire la vérité. Et ensuite, alors on peut voir comment avancer. C'est là que le discernement intervient aussi. Il y a les deux aspects, faire la vérité et puis voir comment on avance. Mais je voudrais reprendre aussi l'aspect de l'arbitraire possible, parce qu'on dit, mais finalement, le risque, c'est l'arbitraire ou la diversité des situations. C'est ça qu'on a dans la tête, évidemment. Alors, ça existe déjà, et c'est ça qui est dramatique. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir la situation actuelle où on a à la fois une doctrine très claire et en même temps une pratique pastorale très laxiste, ou en tout cas diverse. Eh bien, c'est cette dichotomie que le pape ne veut plus. Moi, j'entends ça comme ça. Il n'y a pas moyen aujourd'hui de séparer l'approche doctrinale ou l'approche de la loi, si vous voulez, et l'accompagnement discernant. Voilà, ça va ensemble. Et c'est quand on les sépare, là je reprends votre terme indissoluble, c'est quand on les sépare que ça ne marche pas. Parce qu'on est dans la schizophrénie. Hein, on est, extrêmement exigeant quand on parle en chair. Et puis quand on écoute les gens, on devient très compréhensif. Ouais, les gens, ils ne sont pas fous, ils entendent bien ça. Et je pense que c'est cette schizophrénie qu'il faut essayer de traiter d'une certaine façon. Et je crois que c'est ça qu'il nous dit. Donc on va... Ça ne peut être que positif si on sort de ça. Oui.
Merci. Alors, on va reprendre une question. Oui, voilà. Levez la main encore pour qu'on vous voit bien. Merci.
Bonjour. Bonsoir. Je crois que si on commence par dire comment on fait, on risque de faire un tout droit. Et je pense que ce qu'on nous... Vous m'entendez ou pas ?
Reformulez votre question.
Je pense que si on commence par poser la question comment on fait, on risque de faire un tout droit avec l'exhortation. Je crois que l'exhortation est beaucoup plus un appel à changer le regard. Comment je vois le monde, avec quel regard je vois le monde, avec quelle attention je porte sur le monde. Et reconquérir le regard miséricordieux de Christ, à mon avis, c'est la première démarche à faire. Parce qu'autrement, si on fait l'exhortation à un comment, on fait encore un process de règlement, d'action, etc. Voilà.
Merci pour ce témoignage. Voilà, Jean-Noël Fissinger.
Madame, vous avez beaucoup insisté sur le traumatisme qu'a constitué pour notre génération l'encyclique Humanae Vitae, en tout cas non seulement les couples, mais surtout pour les médecins. Mais vous avez aussi parlé de la dissociation entre sexualité et procréation. Ça dépasse largement Humanae Vitae, puisque c'est tous les problèmes de l'assistance médicale à la procréation qui est en débat dans notre société. Et on va aller bien au-delà de ce texte du pape, puisque la loi française va se prononcer pour ou contre des situations où cette dissociation sera non pas encouragée, mais autorisée. Et que si on dit « Ah, mais il faut prendre chacun individuel », on l'entend toute la journée dans les débats que l'on a. Ah ben, la GPA, mais c'était compassionnel. Je l'ai entendu dire par un éminent jésuite une fois. Ah mais c'est pas condamnable puisque c'était la cousine qui a donné qui a porté l'enfant, et c'était compassionnel. Donc, il y a un moment donné où il faut une loi. Et où on demande à certains d'entre nous de donner des arguments pour et contre. Et cette dissociation, non seulement entre sexualité et procréation, mais entre paternité et procréation, enfin, toutes les questions actuelles, moi, me pose énormément de problèmes dans ma pratique.
Merci. Notre remarque derrière. Voilà.
Oui, cette exhortation s'adresse au monde entier. Et je suis très surprise, Madame l'a quand même souligné à propos de la contraception, disant que nous, on en parle d'une certaine façon dans nos milieux, à Paris en l'occurrence, mais que c'est applicable aussi à Niamey. Il est vrai que le pape parle souvent de diversité, mais l'aborde-t-il suffisamment dans sa complexité immense, dans ce que ça représente en fait un monde totalement différent? Comment appliquer le discernement dans ce cadre, dans cette immensité de cultures différentes? Et ça, je suis très surprise que ça soit si légèrement abordé par le pape. Il parle souvent de diversité. Est-ce suffisant?
Merci. Eh bien, voilà de bonnes questions. Qui est-ce qui veut en reprendre? Pascal Vidal ou...
Je ne vais pas répondre directement à votre question sur la dissociation entre l'union et la procréation. Parce que j'ai dit effectivement que les conséquences étaient terribles. Mais ça m'a fait penser au fait que, en vous entendant, je me disais comment nous, on est concernés. Par exemple, sur la petite phrase qui n'a l'air de rien, « l'enfant est un don et pas un dû ». Ça veut dire que si je veux avoir une parole de vérité avec quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, il y a à parler ça au niveau du « mais qu'est-ce que vous recherchez ?» Je travaille beaucoup et je fais une thèse sur l'adoption. Cette question du « je veux » un enfant, de pouvoir avoir le courage, et c'est difficile, je ne parle pas du fait qu'en plus j'ai des biologiques, de dire « eh bien vous n'en avez pas et peut-être que vous n'en aurez pas » et que votre fécondité est ailleurs, et de pouvoir le dire dans l'exigence et la compassion. Parce que je crois que cette parole exigeante dont vous parliez au niveau du discernement, par exemple, elle n'est pas dite parce qu'on fait quelque chose du sentiment où on ne veut pas faire de la peine ou je ne sais pas quoi. Et c'est très difficile ces positions-là à tenir. C'est ce à quoi ça m'a fait penser. Ça ne répond certainement pas à votre question.
Alain ?
Oui. Tout à fait d'accord pour dire que la conversion, enfin c'est ce que j'ai dit au départ, c'est la conversion du regard, hein, c'est la conversion de l'attitude intérieure. Adopter, j'ai très frappé quand même, hein, c'est contempler le Christ, contempler la manière de faire du Christ et en faire notre propre attitude, à la fois exigeante et miséricordieuse. Ça c'est vraiment le fond, on peut dire, je crois. Alors, sur la question de la diversité, justement, je crois que le pape renonce à donner une nouvelle norme générale parce qu'il est sensible à cette diversité. Il dit ça au numéro 3, hein, il dit ça, il dit « L'Église a besoin d'une unité de doctrine et praxis, oui, mais cela n'empêche pas que subsistent différentes interprétations de certains aspects de la doctrine ou certaines conclusions qui en dérivent. Il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit nous conduise à la vérité entière. Quand il nous introduira dans le mystère du Christ et que nous pourrons tout voir à travers son regard. » Vous voyez, on retrouve ça. Et alors, il précise, « En outre, dans chaque pays ou région, peuvent être recherchées des solutions plus inculturées, attentives aux traditions et aux défis locaux. Car les cultures sont très diverses entre elles, et chaque principe général a besoin d'être inculturé s'il veut être observé et appliqué. » Alors, ça, il faut être très attentif. Cette phrase est très importante. Il invite à l'inculturation. Ça veut dire que l'Évangile, on ne peut pas l'annoncer en dehors de la prise en compte de la culture de ceux à qui on s'adresse. La révélation elle-même ne peut pas se faire si on ne prend pas en compte le récepteur de cette révélation. Donc c'est vrai aussi pour l'évangile de la famille, c'est vrai pour toute vérité chrétienne. Et vous voyez qu'il nous invite précisément à faire des distinctions selon les cultures, selon les défis locaux. Ça veut dire pour prendre en compte la situation africaine, c'est pas la même que la situation européenne. Ben, il va falloir faire des différences, sans doute. Il y a des chemins que les gens vont faire qui seront adaptés à la situation de chacun. Voilà. Mais c'est là-dessus qu'il nous met en route. Vous voyez, il ne donne pas une solution générale. Il nous invite à inculturer vraiment notre pastoral.
Est-ce qu'il y aura une dernière question, voilà, qui va clôturer notre soirée? Levez la main pour qu'on vous voie, voilà.
Nous sommes beaucoup de femmes à accompagner des personnes, et moi je vois que les trois points dont a parlé Pascal Vidal, où es-tu, où sont les enfants, et le lien indissociable vient beaucoup dans l'accompagnement. Et moi j'accompagne beaucoup de jeunes femmes, entre autres, qui se posent beaucoup de questions. Alors, je me dis, dans le discernement qui va se faire auprès des prêtres, est-ce que des femmes et des hommes vont discerner ensemble? Car j'ai bien entendu ce que disait Pascal Vidal, l'aspect de communion est difficile à vivre dans le rapport de nos différences sexuelles. Et souvent, enfin, quand j'entends il faut que les prêtres se forment à discerner, est-ce qu'ils vont le faire à part, bien entre eux, les hommes? Et que si les femmes écoutent, et après que ce sont les prêtres qui vont décider, il y a quelque chose là d'une anomalie qui me semble aller contre la fécondité.
Merci. Je ne sais pas si c'était une question ou déjà une affirmation, mais je suis sûr que vous avez déjà repéré qu'il y a des lieux d'église qui favorisent davantage certaines modalités de discernement que d'autres. Eh bien, il y a peut-être ces lieux d'église à favoriser. Voilà. C'est moi qui réponds, je ne vais pas leur donner la part. Alain, tu veux ajouter?
Oui. Si vous êtes attentif, dans la fin de l'exhortation, le pape dit « J'invite les fidèles à aller avec confiance discuter avec les pasteurs. J'invite les pasteurs à les écouter attentivement. » Ça fait deux exigences importantes. Voilà. C'est pour dire, oui, on est invité vraiment à dialoguer entre nous, évidemment.
Voilà, Pascal.
Alors, il dit exactement, une réflexion sincère, un discernement en colloque avec un prêtre, mais pas seulement avec leur pasteur et d'autres laïcs.
Oui, tout à fait.
312. Non, il le dit.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci à nos invités qui ont été avec nous ce soir. Merci pour ces propos qui nous mettent en route, qui sont exigeants, mais qui, je crois, nous conduisent bien quand même à aller au cœur du message de l'Évangile, au cœur du projet de Dieu, qui est quand même tout de même d'aller de plus en plus vers une plus grande humanisation. Alors, je voulais dire que pour ceux qui n'ont pas encore lu l'exhortation, et si vous ne pouvez pas attendre la sortie de l'édition commentée, très intéressante, qui aura lieu fin août, début septembre, et dans lequel le frère Alain est très impliqué. Il faut faire très attention à ce qu'on dit maintenant. Vous pourrez toujours vous procurer le texte de l'exhortation qui est en vente à l'accueil du Centre Sèvres dans l'édition Carnet de famille. Voilà, ça peut être une lecture de plage. Vous trouverez à la sortie également des urnes où vous pourrez déposer votre libre participation aux frais de cette soirée. Merci de votre fidélité. Et puis, notez bien la date du 4 octobre pour la première soirée d'éthique publique de la rentrée. Sur les questions d'éducation, d'ici là, bon été à tous et bon ressourcement.